418-971-1021, si se passe quelque chose sur la route, vous êtes nos yeux, nos oreilles. Actuellement, il fait beau, comment ça se passe?
Ça va bien, les amis, rien à mentionner.
Il y avait un petit problème hier sur Pierre Bertrand. Je pense que le problème n'est toujours pas réglé, mais c'était les feux de circulation juste ici en bas, là, juste à côté du viaduc là, où passe la capitale. Des policiers qui étaient 5-6 policiers à essayer de faire la circulation dans le bordel, dans le trafic. Puis à chaque fois, je me disais, ils doivent-tu être nerveux de se faire fesser?
Bien, de plus en plus.
Ils sont pas visibles. Ouais. Là, des fois, on parle aux signaleurs. Il y en a tout le temps 4-5 qui se font fesser là, aux 3-4 mois. Tu dis, c'est donc ben une tristesse là, que ces gars-là. Puis surtout, les signaleurs, je veux dire, c'est pas des gens qui gagnent 300 000 par année. Là, c'est des gens qui travaillent autour de 20 $ de l'heure. Puis la dernière affaire qu'ils veulent, c'est de se faire fesser. Je pensais aux policiers hier qui étaient en plein milieu du chemin avec leurs petits gants blancs.
Et pas d'ail.
Simonac, vous êtes courageux, les gars.
Hey, ça vient de rentrer dans les dernières minutes via Québec 51. Ricard, direction nord, à la hauteur de Charest. Il y a une voie, la voie de droite, qui est partiellement entravée en raison d'une panne. Donc, c'est ce que j'avoue mentionner. S'il y a quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021.
Merci beaucoup, Pascal.
Ouais, il y a quelque chose qui est en train d'être très partagé sur les réseaux sociaux. Là. Je ne sais pas si c'est vrai, parce que j'ai comme trouvé une petite faute de français. Là. Mais avis aux résidents, OK, pour Sainte-Foy et autres. Là. Mais avis aux résidents par rapport à la Marmotta. On dit qu'il y a des travaux dans le boisé du Marais, Isabelle, qui devrait commencer au mois de mai pour changer les sentiers de vélo de montagne, dit extrême dans la lettre, en sentiers pédestres. Donc, on dit la Ville de Québec va inviter les citoyens à une séance d'information l'automne 2024 portant sur le projet de sentier pédestre à être aménagé dans le boisé du Marais, Isabelle, au bénéfice de l'ensemble des citoyens. Donc, est-ce que c'est ça qui se tramait? Chose certaine, oui, la Ville semble vouloir avoir possession de ce terrain-là. Mais comme je te dis, il y a une faute. Puis ça m'énerve, puis elle est flagrante, mais c'est partout sur les réseaux sociaux en ce moment. Les gens se disent, c'est ça qu'ils voulaient faire, ce qui est en train de se passer, se tramer avec les gars de la Marmotta qui attendaient simplement d'avoir une collaboration et que tout ne soit pas détruit, là, puis que finalement, on a coupé l'herbe sur le pied, puis on dit, c'est fini.
Mais les dés étaient peut-être déjà pipés d'avance. Salutations aux boys de la Marmotta qui sont extrêmement inquiets de l'avenir de la Marmotta dans le secteur de Cap-Rouge.
Exactement.
OK. Hey, dans le soleil, on peut apprendre que le conflit entre le clan Blood Family Mafia et les Hells Angels donne énormément de fil à retordre au personnel du centre de détention de Québec, qui est un centre de détention où il y a beaucoup de monde. On dit que c'est déjà surchargé. Puis les agents correctionnels doivent composer avec une hausse de la violence et des livraisons par drone à l'intérieur des murs. Encore dans les dernières heures, je pense que c'est pour le pénitencier de Donnacona, des gens qui ont été interceptés parce qu'ils tentaient, deux filles en fait, qui tentaient de faire des livraisons par drone. Ça finit plus. Puis on a eu idée de jaser avec notre Mathieu Lavoie National, qui est le président des agents de la paix en service correctionnel du Québec. Salut Mathieu!
Bonjour.
Le Mathieu Lavoie National, c'est bien vous, ça?
Oui.
ça brasse. Est-ce que on... Puis, tu sais, cette clientèle-là, Mathieu, est très particulière parce que tu ne peux pas les mettre ensemble. Hein? C'est comme un peu... tu sais, il y a des documentaires que je regarde des fois sur Netflix où le gars nous fait visiter les prisons les plus dangereuses du monde. Puis, il y a différents gangs de rue dans ces prisons-là.
Qui veulent faire la loi, tous et chacun.
Tu ne peux pas mettre un membre de gang de rue dans la même cellule qu'un membre de l'autre gang de rue parce que sinon, ça va finir en sang. On est-tu rendu là, ici, au Québec?
Ben oui, dans plusieurs de nos établissements, on a différentes factions de crime organisé qu'on ne peut pas mélanger, qu'on ne peut pas permettre qu'ils se croisent non plus, soit au parloir, soit dans les corridors, soit à l'infirmerie, dans les différents là, aires de vie ou encore là, les aires communs dans les établissements. Et les Hells Angels et les BFM à Québec, c'est le cas actuellement, où on doit s'assurer, dans le fond, qu'il n'y ait pas de contact direct pour éviter justement ces altercations-là. On l'a vu à l'automne, il y avait deux membres de club d'école là, des Hells Angels qui ont été agressés par des gens de la région de Montréal qui étaient incarcérés à Québec. Puis quand on remonte, ben, ils étaient là, liés à des gangs de rue de la même allégeance que les BFM.
OK. Donc, il y a différents regroupements. Il y a aussi la PROTEC qu'on appelle. Est-ce que la PROTEC, maintenant, peut servir à des membres de gangs de rue? Pas vraiment, parce que c'est, sinon, les gens qui étaient sur la PROTEC vont se faire attaquer aussi.
Bien, à ce niveau-là, puis là, c'est plus technique, mais oui, il pourrait y arriver qu'il y ait des différents gangs de rue qui sont en protection. À ce moment-là, ils vont être en régime particulier. On va devoir les isoler en cellules, éviter de sortir certaines cellules en même temps que d'autres, pour justement éviter qu'il y ait des conflits, d'autant plus qu'on voit actuellement là, que la violence en établissement est omniprésente entre les personnes incarcérées, mais aussi envers le personnel. La présence d'armes, de cellulaires, de drogues, de différentes substances, c'est énorme ce qu'on saisit actuellement dans les établissements.
Comment ça se fait que ça arrive aussi souvent, puis que ce soit ce genre de choses-là qui sont interceptées? On a l'impression que c'est trop facile quand on entend des nouvelles comme ça.
Bien, quand on voit là, l'avènement des drones, principalement, cela a amené la capacité d'amener des grosses livraisons avec peu de risque d'être pris, bien souvent, parce que les personnes vont être plus loin. Donc, c'est clair. Puis, il y a un marché qui est lucratif là, pour le crime organisé, tombe, entre autres.
Une fois que ça tombe dans l'établissement, il n'y a personne qui est là pour dire non, bien ça, on vous le donne pas.
Bien, écoute, ça arrive dans les cours extérieurs. Les personnes incarcérées sont là. Pour intervenir dans les cours extérieurs, ça peut avoir un certain délai quand on a 15, 20, 30 personnes incarcérées dans les cours. Mais là, plus loin que ça, aujourd'hui, ce qu'on voit depuis plusieurs mois, ce n'est des années dans la région de Montréal, c'est que les détenus se font livrer carrément aux fenêtres de leur cellule. Les détenus coupent leur fenêtre de cellule, débarquent la fenêtre du cadre de la cellule pour ramasser le stock, le rentrer à l'intérieur. Il y a un marché, comme je disais, qui est très lucratif. On parle de 3 à 4 fois le prix pour les substances, que ce soit du tabac, des drogues, des cellulaires. Pour ce qui est du prix des cartes SIM, des chargeurs de cellulaires, des outils, des couteaux. Donc, il y a un marché, puis un marché qui finance les activités du crime organisé à l'extérieur également.
Est-ce qu'on va devoir grossir nos centres de détention, Mathieu?
Bien, on va devoir, à certains endroits, oui, les grossir, mais également les mettre au goût du jour. Là. Il y a des infrastructures à faire pour mettre en place des fenêtres sécuritaires et éviter que les personnes incarcérées y aient accès. Des technologies, exemple, pour s'assurer que les cellulaires ne fonctionneraient plus à l'intérieur des murs pour éviter tout contact là, prohibé là, avec pour faire leur traitement, là, soit des transactions bancaires, soit intimider des témoins avec des cellulaires. Il faut vraiment qu'il y ait un investissement pour qu'on reprenne ce contrôle-là, puis que ce soit plus le crime organisé, que ce soit le free-for-all à l'intérieur quand ils ont accès à ces substances-là. Il est clair que nos établissements, actuellement, en plus, débordent. Et débordent pas nécessairement que l'ensemble des cellules sont occupées. On a des cellules qui sont brisées, qui sont en attente de réparation et que ça prend des mois et des mois à réparer. Ça, c'est une chose. Et l'autre côté, on a aussi des cellules qu'on n'utilise pas parce que la clientèle qu'on a demande un niveau d'encadrement plus grand que le secteur est capable d'offrir au niveau sécuritaire. Donc, souvent, nos secteurs sécuritaires, nos secteurs de protection sont pleins. Mais les secteurs minimums, il y a de la place, mais on n'a personne pour mettre dans ces secteurs-là. Parce que c'est pas des gens, exemple les BFM, les HA, c'est pas dans ces secteurs-là qu'on doit les héberger. Ça va être dans des secteurs sécurisés, avec des codes de sécurité également, parce qu'ils représentent un...
Je vais te poser une question bien personnelle, Mathieu Lavoie. Tu es président des agents de la paix en service correctionnel du Québec. Est-ce que nos centres carcéraux qu'on peut avoir, que ce soit provincial ou fédéral, parce que je sais que tu connais un peu les deux, est-ce qu'ils sont capables, ces centres-là, de dissuader les criminels de revenir à cet endroit-là? Parce que bien souvent, quand tu n'es pas bien à un endroit, quand tu souffres le martyr à un endroit, puis attention, il faut que les droits de l'homme soient respectés, là, mais quand tu n'es pas heureux à un endroit, la dernière affaire que tu veux, c'est d'y retourner. Est-ce que nos centres de détention sont convenables pour essayer de réinsérer ces gens-là dans la société puis qu'ils ne reviennent plus jamais d'un centre de détention?
Bien, en fait, je dirais que c'est plus un débat sur la façon qu'on applique actuellement au service correctionnel la notion de privilège, la notion de droit. Avec les années, les hauts dirigeants du ministère, certaines personnes au ministère, ont beaucoup plus opté pour le service 5 étoiles aux personnes incarcérées plutôt que... Puis on parle pas ici de ne pas respecter les droits de l'homme. Ce qu'on parle, c'est vraiment d'avoir un côté coercitif. Depuis des mois, depuis des années, on décrit de dire souvent on traite mieux les personnes incarcérées, le crime organisé de détention, que les aînés en CHSLD. Clairement, on a peut-être un débat de société à avoir, à dire faut raffermir les règles, faut qu'on soit plus strict, plus coercitif, parce qu'une réinsertion sociale, ça vient avec un encadrement, avec une responsabilisation des personnes et avec un côté plus coercitif. Il ne faut pas que la personne se trouve bien, finalement, puis que ça soit un party parce qu'il y a des hauts dirigeants qui ont décidé que c'est un club med.
Est-ce que la surpopulation actuellement qu'on a dans nos centres de détention a un impact sur les accidents de travail pour tes agents correctionnels?
Ça a un impact, oui, ça peut avoir un impact sur les accidents de travail, ça a un impact sur, également, l'épuisement. Quand on regarde la surcharge de travail, si on parle de l'intervention de Québec, la charge de travail a décuplé dans les dernières années. On n'a pas ajouté les effectifs parce qu'on en manque d'effectifs. On a de la misère à retenir le monde. C'est pas nécessairement des attirer au service, c'est des retenir par la suite. Quand on regarde le nombre de démissions, puis c'est pas nécessairement juste des jeunes qui démissionnent, on en a qui ont 5, 10, 15 ans d'ancienneté qui s'en vont vers d'autres corps d'emploi. L'an dernier, on parle d'au-dessus de 100 démissions, puis là, je parle pas des transferts, mutations ou dans d'autres fonctions, c'est vraiment des démissions. L'année précédente, 150 démissions. Donc, clairement, il y a un problème. Puis quand on regarde actuellement les postes vacants, provincialement, on a 300 postes ou près de 300 postes vacants et plus de 180 postes en absence long terme, accident, maladie et autres absences. Donc, c'est clair qu'il y a un manque d'effectifs. À Québec, on peut parler d'une cinquantaine d'agents qu'il faudrait avoir de plus pour permettre justement d'éviter le temps supplémentaire obligatoire.
Bien, on nous a dit, en fait, dans cet article-là, qui dépeint un peu la situation entre la gang de Blood Family, de Picture Mail, puis les Hells Angels qui se retrouvent au même pénitencier, puis là, il faut les séparer et autres, qu'il faut 50 intervenants de plus. Combien de temps vous allez être capable de tenir ça avec les horaires et autres pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fracas à l'intérieur des murs de la prison? Parce que c'est beaucoup, là, c'est beaucoup de personnes, 50 de plus. Puis en plus, vous dites, on est en pénurie, puis il en faudrait 50 normalement.
C'est clair, là, à Québec, quand on voit le manque d'effectifs pour l'établissement de détention de Québec, les agents font tout ce qu'ils peuvent pour maintenir à flot, puis ils travaillent, là, on voit le temps supplémentaire obligatoire, on voit tout ce qu'ils vivent. Écoutez, de savoir combien de temps on va être capable de tenir, ça fait quand même un certain temps, là, je dirais même quelques années, qu'on réussit à garder le service correctionnel, là, parce que les agents répondent présents, mais clairement, ça ne pourra pas perdurer, on le voit, bon, on le sent, l'épuisement.
Mathieu, est-ce que les salaires, le salaire d'un agent de détention là, qui travaille pour Service correctionnel du Québec, ça peut varier entre quoi et quoi à peu près?
Ben, écoutez, je n'ai pas l'échelle devant moi, là, mais on va parler là, peut-être au début là, un peu plus de 50 000 $ jusqu'à 75 000 $ là, sans temps supplémentaire, sans prime. Là. Clairement, quand on regarde actuellement les départs qu'on a, on part vers, parce que tout le monde recrute dans le milieu agent de la paix présentement,
ouais.
On a des gens qui partent au fédéral, des gens qui partent vers les corps policiers. Pour le salaire, pour certains, dans certains emplois, c'est pour l'horaire également, pour la stabilité. Donc, il y a des discussions à y avoir là, dans les prochaines semaines, les prochains mois, clairement sur les conditions de travail. Et on entend beaucoup le gouvernement du Québec dire qu'il veut être un employeur de choix. Dans les derniers mois auprès de l'ensemble de ses employés, ben, il va falloir qu'il devienne un employeur de choix correctionnel parce qu'on va avoir un sérieux problème dans les mois à venir quand on voit les démissions là, qu'il y a et les demandes de mutation.
Puis entre 50 et 75 000, est-ce que tu as l'impression que ce salaire-là représente le niveau de danger, le niveau de danger? Parce que, je veux dire, plus les métiers sont dangereux à mes yeux, plus ils devraient être rémunérés. Quand tu travailles dans un centre de détention, que ce soit provincial ou fédéral, ça devrait peut-être être un peu plus élevé que si tu es un agent de sécurité dans un parc où il y a du loisir.
Quand c'est risqué, normalement, ça va avec le salaire un peu. Là, ouais.
Ton impression, Mathieu?
Clairement, il y a une amélioration à avoir là-dessus. On le tonne à l'employeur actuellement quand on voit les agressions, les absences, les menaces que les agents vivent au quotidien dans certains établissements. Puis au-delà de ça, les entrées par drone qui sont rendues quotidiennes avec des armes qui rentrent à l'intérieur, va falloir que le gouvernement mette sur la table de l'argent.
Mais ça, on en avait déjà parlé, toi et moi, dans une autre vie radio, Mathieu, je pense que je t'avais fait rire un peu, mais je regarde beaucoup de documentaires, moi, sur les centres de détention, puis les façons de régler certains problèmes, dont les aéroports. T'sais, à un moment donné, il y avait des gens qui s'amusaient à faire voler des drones au-dessus des aéroports pour prendre des images, qui est extrêmement dangereux pour les pilotes puis la sécurité des passagers. Ouais. Bien, ils avaient décidé d'embaucher des fauconniers qui entraînait un animal, qui est un oiseau de proie. Puis l'oiseau de proie, à chaque fois qu'il ramenait un drone, était récompensé par une machine distributrice. Donc, il prend le drone, il le met dans un endroit bien précis, c'est comme une trappe, là. Puis après ça, lui, prend sa surprise. Puis après ça, il surveille, voir s'il n'y a pas d'autres drones. Pourquoi on ne ferait pas la même affaire dans nos centres de détention? Y a-t-il des moyens efficaces pour lutter contre les livraisons de drones? En Amérique du Sud, ils l'ont trouvé, le moyen efficace. C'est un oiseau qui est nourri avec des souris. Ici, c'est donc bien compliqué.
Ben, la bureaucratie gouvernementale au Québec ou puis au Canada en général fait en sorte que c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'acteurs impliqués. Exemple, nos établissements appartiennent à la SQI, qui les loue au service correctionnel. Donc, là, l'autre côté, il y a le gouvernement au travers de ça avec ses appels d'offres, ses façons de faire des appels d'offres. Donc, ça fait des années qu'on parle de mettre en place des moyens, mais souvent, on est confronté à « Ah, ben là, la soumission n'est pas adéquate, on va recommencer. Finalement, c'est peut-être pas la bonne chose. Chaque établissement étant différent, ça nous prend d'autres solutions. » Nous, ce qu'on dit, c'est que c'est un ensemble de solutions que ça va prendre. Il faut sécuriser nos fenêtres, il faut sécuriser nos infrastructures, avoir, oui, des moyens technologiques, puis avoir les effectifs. Rendu là, ça nous donne la capacité d'intervenir, d'agir, puis d'intervenir plus rapidement. Mais tout ça, il faut qu'il y ait une cohésion. Puis c'est ce qui manque, je vous dirais. Actuellement, là, quand je regarde, on crée beaucoup d'équipes au service correctionnel actuellement, au niveau de la gestion des équipes correctionnelles. C'est rendu compliqué de s'y retrouver à qui fait quoi dans le siège social du ministère. Puis quand on pose la question, on nous dit « Ah, mais non, ça, c'est pas mon équipe, c'est l'autre. » Fait qu'en bout de ligne, il y a tellement de monde qui touche à ça qu'il n'y a rien qui bouge.
Bon, il y a un de tes gars qui travaille actuellement au centre de détention de Québec qui nous écoute. Il est là présentement. Puis il me demande de te demander, demande à Mathieu si on a les outils nécessaires pour faire face à la surpopulation actuellement, que ce soit des outils pour... je comprends pas le mot qu'il m'a écrit, là. Mais bref, est-ce que vous avez les outils nécessaires? Est-ce que les moyens de défense que vous pouvez avoir quand vous êtes au travers de la populace à l'intérieur des murs, est-ce que c'est efficace pour vos agents actuellement ou vous aimeriez peut-être avoir d'autres outils?
Clairement, il y a d'autres outils qui devraient être mis en place, puis ça, c'est discuté là actuellement. Il y a une problématique au niveau de la surpopulation, au niveau des infrastructures, au niveau certaines de nos formations, puis au niveau aussi des équipements qu'on a. Et on va continuer ces discussions-là pour démontrer à notre employeur qu'il y a un manque, qu'il y a un risque, puis que clairement, ils vont devoir agir.
Est-ce qu'il y avait du respect avant entre, mettons, les intervenants puis les gens qui étaient dans la prison? Je vais les appeler les criminels, c'était rendu en prison, pas mal une façon de les appeler. Est-ce qu'il y avait plus de respect auparavant? Parce que tu ne voulais pas t'y mettre à dos, tu ne voulais pas être violent envers eux, mais des fois, il y en a un qui sautait une coche puis qui dépassait les limites, mais ça semble être beaucoup plus plein de tensions maintenant.
Ben, on a vu au cours des dernières années, là, puis on ne se le cachera pas, les bandits sont devenus plus violents, plus menaçants, respectent moins les règles. Puis, parallèlement, on voit qu'on a de plus en plus de gangs de rue à l'intérieur. Et à l'extérieur, c'est un problématique, les gangs de rue, puis à l'intérieur également. La surpopulation puis les infrastructures désuètes font en sorte aussi que les tensions augmentent. Donc, ça devient une poudrière assez explosive. Fait que oui, il y a un... Je ne parlais pas nécessairement de respect, mais c'est une question où il y avait des règles. Et justement, les règles étaient davantage respectées. Mais aujourd'hui, on a tellement peur d'appliquer les règles parce que souvent, les agents vont être sanctionnés davantage. Les personnes incarcérées n'auront pas de sanctions ou de conséquences de leurs actes. Et tout ça là, est aussi une problématique de gestion qu'on a au travers de nos établissements, au travers où on a nommé des gens qui ne connaissent pas une prison bien souvent, mais qui ont été nommés à coup de diplôme.
Mathieu, c'était une bonne ligne, celle-là, garde-la. Mathieu Lavoie, c'est toujours un plaisir de jaser.
Merci.
Merci beaucoup. Bye-bye. Mathieu Lavoie, qui est président des agents de la paix en service correctionnel du Canada. Pourquoi on lui parlait, c'est que la guerre des stupéfiants résonne à la prison d'Orsainville, conflit entre le clan Blood Family Mafia et les Hells Angels donne du fil à retordre au personnel du centre de détention. C'est un endroit qui est déjà surchargé, puis les agents correctionnels doivent composer avec une hausse de la violence et des livraisons par drone à l'intérieur des murs. Mais tu sais, je me répète, là, tu sais, quand dans des pays de cul, ils sont capables de trouver des solutions pour empêcher les drones de voler au-dessus des aéroports ou encore de voler au-dessus des centres de détention avec des moyens aussi limités qu'un oiseau de proie qui s'en va chercher le petit drone puis qui ramène ça dans une poubelle. Puis avec la trappe, ça l'envoie un signal à un autre endroit où la petite souris arrive. Puis là, le faucon, il est content d'avoir sa souris. Lui, là, c'est sa job. Okay? Il travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quand il y a un drone qui est là, il sait que le drone représente une souris, il s'en va chercher le drone, puis il bouffe sa souris. Pourquoi au Québec, pour ce qui est des livraisons par drone, on n'est pas capable d'avoir des outils efficaces? Peut-être plus technologiques, là, parce que tu sais, la température qui fait, pas trop sûr que l'oiseau trippe tant que ça à faire ce job-là, là, mais des moyens plus technologiques pour faire descendre ce drone-là, ça l'existe?
Je comprends pas comment c'est si facile. Puis c'est pas contre personne qui travaille dans le centre de détention. Les fenêtres. Pourquoi ouais, est-ce que le prisonnier est capable de la couper, de la défaire? Puis je m'étais fait expliquer que des fois, il suffit d'une minuscule craque, le drone est quand même capable de faire sa livraison. Pourquoi est-ce que ça... Tu sais, ouais. Je veux dire, mais climatiser les... au lieu ouais. de faire en sorte qu'on peut faire un courant d'air en ouvrant une fenêtre?
Mais les gars, ils rentrent pas. Je sais pas, il y a peut-être aussi des raisons pour ce qui est des incendies et tout ça. Là. Mais tu sais, ils peuvent pas les embarrer dans une pièce noire en métal. Ça se peut pas
non,
se faire.
Non, mais si c'est un mécanisme ouais. que ça ouvre, tu sais, pourquoi lui, en tout cas?
Mais,
je sais pas, je cherche.
Mais bref, le drone va directement à ta fenêtre. Ce qui reste à faire, c'est de sortir ton bras puis prendre la livraison, puis de laisser repartir le drone. Mais il y a des moyens technologiques pour que les drones puissent pas être capables de comprendre. Attends un peu, c'est quoi les ondes là, qui sont autour? Qu'est-ce qui se passe? Mon système est tout fucké, il faut que je descende en bas. C'est assez facile, ça, là. Ça existe, puis on l'utilise pas. Peut-être parce qu'effectivement, comme Mathieu le dit, il y a des gens qui croient comprendre ce travail-là, mais qui cherchent pas à le connaître auprès des gens qui sont en théâtre de guerre. Ils prennent des décisions, puis ils savent pas ce qu'ils font, en fait. Puis c'est les gars qui travaillent avec Mathieu, des agents correctionnels qui se ramassent avec les problèmes que les politiciens en haut décident.
C'est complètement fou, puis tu t'entends parler, Pascal, mais l'affaire des fenêtres, ça me fascine, là. T'es dans ta cellule, il ouvre la fenêtre, il te donne quelque chose. C'est, comme tu l'as dit, il y a une facilité. Puis eux autres, pour les agents correctionnels, c'est difficile d'arriver à capter ça, finalement.
Je te pose une question, comme ça te prendrait combien comme salaire? Et... si je te dis que ta job, ça va être d'endurer un gars qui a fait des crimes épouvantables, des crimes crapuleux, OK? Faut que tu l'endures. Puis il te dit, Tom, ta petite fille, elle s'appelle Pascal, hein? Puis là, tu dis oui. Elle va à telle école, hein? Ouais. OK, je vais m'en souvenir. Ces gars-là, ces gars-là et ces filles-là qui font ces métiers-là doivent dealer avec ça.
Puis
ça
n'arrive
pas à tous les jours,
non.
Mais ça arrive souvent.
Les gangs de rue, là, les sans scrupules, ils n'en ont réellement pas de scrupules. Puis on le voit, il dit ça a changé la criminalité. Là. Avant, il y en avait certains qui voulaient être chum avec l'agent correctionnel, pas parce qu'ils voulaient avoir des privilèges, là, mais parce qu'ils ne voulaient pas avoir de troubles supplémentaires entre les murs de la prison. On est rendu avec des gars qui en ont absolument rien à perdre. Ils ont déjà tout perdu. C'est ça qui est fou.
T'as pas répondu. C'est 50 000, 75 000. T'as fait menacer.
Il a dit, je veux pas.
T'as fait montrer la photo de tes enfants.
Hey, je veux pas. Sérieusement, disant, je sais même pas. Je vais exagérer, là, mais ça me prend 10 millions. Là. Sérieusement, je serais pas capable de faire ça.
C'est rare, les gens qui sont capables de faire ça. Puis il y en a pourtant qui le font. Puis on vous salue, dont le gardien de prison qui m'a écrit sur mon Messenger. Oui. Je le salue. Pascal a posé une question hyper pertinente à Mathieu, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a encore une forme de respect dans les centres de détention détenus versus, on va les appeler les screws, parce que c'est comme ça qu'ils s'appelaient avant? La réponse, c'est il y en a encore une, mais les gars, ils jouent sur la limite constamment. Dans le temps, un détenu dans les années 60-70, s'il menait trop le train, il y avait les agents correctionnels qui arrivaient puis qui donnaient l'impression que s'il recommence, ça va être encore pire que l'intervention qu'ils viennent de faire là. Fait qu'il y avait comme une crainte. Par la suite, la société a avancé, puis il y avait comme une façon de « agis bien avec moi, moi je vais agir avec toi puis je vais te donner des privilèges que je peux te donner en dedans. » Puis ça a fonctionné pendant un certain temps. Mais là, avec l'immigration qui est rentrée, on a de la difficulté à faire en sorte que ces gens-là puissent bien rentrer dans notre société. Fait qu'ils gagnent pas très cher, ils trouvent des moyens d'essayer de faire des patentes, ça rentre en dedans. Puis là, ben, ils sont fâchés, ils sont frustrés, les agents correctionnels sont fâchés envers eux parce que là, ils sont tout le temps frustrés, puis la foire est pognée en dedans. C'est souvent ça qu'on me raconte, là, c'est qu'il y a tellement de monde différent avec des cultures différentes en dedans que la notion de respect a complètement disparu. Puis l'agent correctionnel va partir des fois avec deux prises quand il va commencer à faire une intervention parce que le détenu semble avoir plus de droits que le gars qui pratique son travail.
Imagine.
C'est complètement
parce que ça rend ton métier encore plus dangereux. Ça me fait depuis tantôt, j'ai juste la toune de Pâques dans la tête, émeute en prison. Puis Éric Lapointe l'avait repris, puis il avait ajouté des paroles. Je pense qu'il ne les avait pas faites sur la scène.
De ta bouche.
Non, c'était genre... je vais fourrer ta femme, puis elle va aimer ça, dans le genre de discours qu'ils peuvent avoir.
C'est Éric Lapointe qui l'avait repris, ça?
Ben, Pag la chantait pas, je pense, cette phrase-là. Je pense que c'est Éric qui avait ajouté ça.
Ah ouais.
Mais, tu sais, cette chanson-là montre un peu c'est quoi la relation entre détenus et intervenants. Celle de Pag, je la conseille.
OK, on va faire une courte pause, midi 51, on revient.
Marceau, le midi.
Le monde des applications mobiles, c'est une véritable jungle.
et Boulevard est à la recherche d'une entreprise de confiance pour améliorer et faire la mise à jour de ses applications mobiles. Que tu fasses partie d'une start-up ou que tu sois un programmeur indépendant qui sort de l'école, ton travail nous intéresse. Parce que nous autres, notre job,